Bonjour, je m'appelle Julia Tétrault-Provencher et bienvenue à un nouvel épisode du balado Juriste branché, où nous parlons aujourd'hui de la santé psychologique.
Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien.
Nous discutons du rapport de recherche conjoint qui a été réalisé en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et l'Association du barreau canadien, évidemment. Alors, les mots d'ordre du jour, c'est détachement psychologique du travail et capacité à mettre ses limites. Quelles que soient les raisons qui motivent votre intérêt, que vous soyez un ou une professionnelle du droit, ou si vous aspirez à le devenir, il est essentiel de fixer des limites et de parvenir à un détachement psychologique de votre travail. Pour discuter de ces enjeux aujourd'hui, je souhaite d'abord la bienvenue au docteur Cadieux de l'Université de Sherbrooke et bienvenue également à Fabien Fourmanois de l'Association du barreau canadien. Donc aujourd'hui, vous avez compris, voilà, on parle de la santé psychologique dans la profession juridique. En tant qu'avocat et qu'avocate, notre force psychologique, et là je mets des guillemets ici, ou ce qu'on croit l'être, est souvent présenté comme étant un élément qui est essentiel pour assurer notre crédibilité face à nos clients et nos clientes, et aussi pour inspirer la confiance. Mais en fait, est-ce qu'on est aussi inébranlable qu'on semble le penser? Donc, docteur Cadieux, je me demande un peu comment est-ce que ça a été pour vous, alors que vous étiez la chercheuse principale de ce rapport. Vous avez entendu des témoignages, vous avez rencontré des gens qui vivaient de l'anxiété, du stress, parfois consciemment, parfois même pas, et ce pendant des jours, des mois, voire même des années. Donc, en fait, ma première question, ce serait comment est-ce que votre travail, comment l'avez-vous vécu? D'abord, on va commencer avec ça. Comment avez-vous vécu cette recherche que vous avez faite pour ce rapport?
Bien, je l'ai vécu. J'ai trouvé que c'était quand même tout un défi, hein, d'abord d'étudier à l'échelle nationale avec des réalités diversifiées à travers le Canada, d'est en ouest, du nord au sud, quand même des réalités qui sont parfois distinctes, mais qui, malgré une grande hétérogénéité, il y a quand même beaucoup de points communs. Fait que je l'ai vécu comme un défi professionnel d'abord quand on me l'a présenté. Ensuite, je l'ai vécu aussi avec beaucoup d'accueil, je dirais, un bel accueil reçu de la profession à travers le Canada, beaucoup de confiance des professionnels qui se sont impliqués, qui ont été très nombreux à répondre à l'appel. Je les remercie d'ailleurs parce que je dois dire à quel point et à de multiples façons ils m'ont touchée au cours de la dernière année.
Trouvez-vous justement que les gens que vous avez rencontrés et que la profession juridique en général est ouverte à avoir une discussion sur sa propre santé psychologique? Ou puis, pensez-vous, par exemple, qu'il y a quelques années, ça aurait été peut-être plus difficile de faire ce rapport ou non, on a toujours été très ouvert? En fait, je me demande un peu, tu sais, comment est-ce que vous nous voyez là, dans notre perception de la santé psychologique?
Ben, je dirais que c'est beaucoup plus facile et c'est minimalement peut-être le seul avantage que la pandémie aura eu. Peut-être pas le seul, mais quand même un des seuls avantages qu'on aura eu. La pandémie de COVID-19 nous a tous plongés dans une... Je dirais quand même, ça veut briser un sentiment de sécurité psychologique qui existait avant. On est dans un pays qui est quand même développé avec de multiples ressources. Il est clair que on n'aurait jamais cru être plongé instantanément dans une insécurité telle que chaque personne serait confinée à la maison, que ceux qui font pas de télétravail doivent automatiquement télétravailler et ceci pour des mois, voire ça s'est étiré pendant 2 ans. Donc, je dirais que ça l'a fait en sorte, évidemment, qu'une vaste proportion de la population a vécu des enjeux de santé mentale, de santé psychologique, de détresse. Et ça l'a fait en sorte qu'on en parle plus. Donc, ça l'a facilité les choses, je dirais. Je dirais que les professionnels du droit, en tout cas, eux, étaient prêts à en parler. C'est clair qu'après, a posteriori, quand on arrive avec les conclusions d'une étude où le portrait dressé, évidemment, n'est pas très positif, et ça peut engendrer des fois des discussions plus soutenues parce que ça veut dire aussi de changer hein, dans le futur si on veut reconstruire et faire en sorte d'aller vers un futur de la profession qui soit positif. Donc, c'est clair qu'il faut capitaliser sur ces résultats. Ça va vouloir dire des changements dans les entreprises.
J'ai envoyé un courriel ce matin à un conseiller externe. Donc, moi, je suis en entreprise. Puis, j'ai envoyé un courriel ce matin à un conseiller externe demandant une question assez simple. Puis, je reçois un bounce back qui me dit je répondrai à votre courriel le plus rapidement possible, mais je ne me sens actuellement pas très bien. Je vous reviens. Il y a 10 ans, je pense que ça ne serait pas arrivé. Je pense que je n'aurais pas reçu un bounce back de cette nature-là. Donc, est-ce qu'on est à un moment dans la profession où on est capable de prendre conscience des résultats qui font partie des études en question, puis d'agir là-dessus? Je crois que oui. Je pense qu'il y a un mouvement collectif vers ça. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et les résultats, effectivement, de l'étude sont assez choquants de certains points de vue, dans la mesure où je crois qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans qui est particulièrement nouveau, en fait, de notions. Par contre, l'ampleur du problème, je crois, est grande par rapport à ce à quoi je m'attendais, par exemple. Donc, je pense que c'est choquant de ce point de vue-là, du point de vue de l'ampleur des difficultés qu'on constate dans la profession. Et donc, mon espoir, parce que je vis d'espoir, mon espoir, c'est qu'effectivement, la profession va être en mesure de prendre acte de ces recommandations-là, prendre acte de ces difficultés-là, et d'effectuer des changements réels. Maintenant, ça ne va pas se produire tout seul. Il va y avoir du travail à faire. On est une profession qui est relativement conservatrice, disons. Et donc, je pense que ce travail-là va être difficile. Mais l'Association du barreau canadien, de concert avec beaucoup d'autres acteurs, y compris les sociétés d'aide de soutien aux avocats, les barreaux à travers le Canada, vont devoir se pencher là-dessus, puis développer des meilleures pratiques, je pense, pour éviter la perpétuation des résultats qu'on voit dans l'étude en question. Le rapport en tant que tel, finalement, fait état d'une situation avec une recherche qui est très détaillée, et le rapport aussi comporte des recommandations. Cela dit, les recommandations ne sont pas accompagnées d'un plan d'action concret. Puis donc, le travail qui doit venir après ça, ben, c'est exactement ça, c'est aller développer un plan d'action qui soit propre à chaque milieu de travail dans la profession juridique. Puis je ne parle pas nécessairement uniquement de la pratique privée. Je pense que c'est un changement qui doit se faire à travers les différents types de pratiques. Est-ce que c'est un changement de paradigme ou est-ce que c'est une réalisation que les façons de faire actuelles ne fonctionnent pas? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Maintenant, ce que je constate à la lecture de ce rapport-là, c'est qu'effectivement, on est à un point où ce n'est pas une option de ne rien faire. Il y a des statistiques là-dedans. Par exemple, il y a une statistique, j'ai plus le pourcentage exact, mais je crois que c'était plus de 24% des membres de profession qui ont eu de l'idéation suicidaire, par exemple, juste pour sortir un exemple, qui est, je pense que c'est 12 fois la population des travailleurs du Canada. Donc, un multiple de 12. Des faits comme ça qui sont concrets, qui montrent qu'il y a manifestement des problèmes structurels, je crois, vont nous pousser au changement parce qu'il n'y a pas d'alternative essentiellement. C'est ça ou l'avenir de la profession qui est en jeu. Le pourcentage de personnes qui sont dans la profession depuis peu de temps et puis qui déclarent avoir des problèmes sérieux, voire sévères, le pourcentage chez les jeunes est beaucoup plus élevé que chez les personnes plus âgées. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens qui ont grandi dans les années 90, au début des années 2000, sont habitués à réclamer des choses et à ne pas tolérer certaines situations? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que, justement, les gens qui sont les vétérans de la profession, les gens de 40, 50, 60 ans, ont été exposés à ça toute leur vie puis se disent « Mais non, j'ai pas besoin d'aide, tout va bien ». Ma santé mentale est parfaite, j'ai absolument aucun problème. Puis donc, est-ce qu'ils sont habitués à un certain niveau de mal-être finalement? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que ça va prendre, oui, effectivement, je crois que ça va prendre un petit peu de temps pour décortiquer tout ça. Ce n'est pas une question de ah, c'est les jeunes, on sait bien les jeunes, ça se plaint toujours de toute façon. Je pense que ça va prendre du temps pour faire le tour de cette question.
Donc, j'aimerais maintenant retourner à Dr. Cadieux. Comment est-ce que vous trouvez à date que votre travail, le résultat des recherches, donc vous y avez un peu touché déjà, mais j'aimerais savoir justement avec les recommandations que vous avez faites, comment il a été reçu jusqu'à présent par exemple, les personnes à qui vous faites certaines recommandations?
Bien, je dirais que ça a été bien reçu, mais c'est sûr que là, les recommandations ont été, on a fait un dépôt la semaine dernière, donc c'est tout récent. La semaine dernière, on a présenté à tous les barreaux canadiens qui sont partie intégrante de ce rapport, oui, mais ce projet quand même qui est en deux phases. Donc là, ça, c'est la phase 1 qu'on vient de terminer. On a eu vraiment une réception très positive des barreaux. Je suis allée aussi présenter dans un sommet en Alberta. C'était vraiment bien reçu. Il y avait déjà des milieux de travail, des programmes d'aide également, des professionnels. Donc, jusqu'à présent, la réponse est vraiment très positive. Les conclusions, en fait, les recommandations finales seront publiées dans les prochains jours. Et là, c'est là qu'on verra dans les milieux de travail au cours des prochains mois. Mais j'ai déjà des indications, en tout cas, que je peux pas dévoiler à ce stade, mais qui je reçois des messages quand même très positifs des milieux de travail qui sont en train de revoir leur alignement, leur façon de faire et cherchent vraiment des moyens très concrets à mettre en place pour améliorer de façon durable la santé des professionnels. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il y a deux phases, mais la première phase était de dresser un portrait à l'échelle nationale. Donc, c'est ce qui a mené au rapport qu'on vient de publier, mais qui n'incluait pas là les recommandations. Il faut savoir que faire des recommandations à l'échelle nationale, c'est quand même un défi. Et ceci en souhaitant qu'on soit pas trop général, mais que les recommandations sont suffisamment spécifiques pour que les acteurs se sentent concernés. Et donc, ça, c'était vraiment important pour mon équipe et moi-même. Et dans ce cadre-là, donc, c'est ce rapport complet avec les recommandations qui va être publié, mais qui concerne seulement la première phase. La deuxième phase, elle, sera de dresser des portraits à l'échelle nationale, mais dans chacune des provinces et territoires. Donc, on va reprendre les données qu'on a collectées. On fera un rapport par province et territoire. Et dans ce cadre-là, là, on ira faire des entrevues aussi à travers le Canada pour contextualiser les résultats et contextualiser aussi les défis. Parce que, bon, quand on est dans l'Est du Canada versus dans l'Ouest ou peut-être dans un territoire, les réalités peuvent parfois être différentes. Et dans ce cadre-là, c'est important pour nous de donner une voix aux professionnels. Donc, on a commencé déjà à faire des entrevues, mais dans la phase 2, là, on ira faire des rapports qui seront plus courts, mais vraiment plus contextuels.
Ah, mais c'est hyper... C'est très intéressant parce que moi, une chose que j'ai beaucoup aimé de votre rapport, c'est l'aspect très intersectionnel, donc qui prend beaucoup en compte, tu sais, c'est pas un monolithe, la profession juridique, puis on a des contextes, des expériences différentes. Donc, je trouve ça hyper intéressant de savoir que donc il y a une phase 2 plus contextuelle, plus par province, donc encore plus peut-être détaillée et poussée. Donc, on va suivre ça de près. Mais pour cette phase 2, je comprends pour nos auditeurs et auditrices, le rapport a été, c'est tout chaud, là, ça a été publié en octobre 2022. En fait, j'aimerais savoir quand est-ce que vous et vos collègues, vous avez débuté ce projet? Donc, c'est en quelle année que ça a commencé?
Bien, il faut savoir que ce projet-là découle d'un premier projet qu'on avait réalisé au Québec en partenariat avec le Barreau du Québec. Donc, ça fait quand même 10 ans maintenant que je m'intéresse à la santé des avocats, avocates et autres professionnels du droit également. Donc, dans le cadre d'une étude qu'on avait faite au Québec, j'étais allée faire des entrevues qualitatives sur le terrain dans 3 barreaux du Québec, 3 barreaux régionaux pour un peu comprendre vraiment les facteurs de risque spécifiques à la pratique du droit, ce qui avait mené donc à un premier rapport au Barreau du Québec, puis ensuite à une collecte quantitative à l'échelle du Québec où on avait eu quand même 2700 professionnels au Québec là, qui avaient participé. Et c'est en présentant les résultats qu'on avait obtenus au Québec finalement devant les barreaux canadiens avec une invitation de la Fédération des autres professionnels de juristes du Canada où la réception avait été incroyable de la fédération et à ce moment-là, on a commencé à entamer des pourparlers pour faire une étude, voir si ce serait possible de faire une étude à l'échelle nationale. Et donc, on a fait cette étude-là, on a conclu un partenariat en pleine pandémie, alors que nous venions tout juste d'entrer en contexte de pandémie. On a longtemps jonglé en se disant, est-ce qu'on continue? T'sais, est-ce que ça va biaiser les résultats? Et finalement, en discutant avec les partenaires, on s'est dit, il n'y aura pas de meilleure occasion de s'intéresser à la santé que celle de la pandémie. Et donc, c'est un projet qui a débuté en 2020. Formellement et qui dont la première phase se termine en 2022, puis la deuxième phase débute là, a déjà même commencé et elle se terminera en 2025. Donc c'est quand même un projet de très longue haleine, mais aussi de très grande envergure, ce qui exige quand même du temps.
Mm-hmm. Non, tout à fait. Puis justement, donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc ce dit rapport, finalement, quel est un peu, je sais que c'est une question très large, mais quel est l'état général de notre santé psychologique au final?
J'aurais certainement une réponse courte à vous donner à ça, puis une réponse longue. Je dirais que clairement, si j'avais à donner la réponse courte, d'abord, je dirais plus ou moins bonne et je dirais même mauvaise. Mais je crois malgré tout que cette réponse courte mérite des nuances et elle mérite d'être appuyée par certains indicateurs clés qu'on a mesurés dans le cadre de cette étude-là. Évidemment, dans le contexte qu'on l'a mesuré, d'abord, on a collecté ces données-là suivant la troisième vague de COVID-19. Et durant la pandémie, l'ensemble de la population canadienne a été fortement impactée par la situation pandémique, par les mesures sanitaires, par les turbulences, l'incertitude, les changements multiples qui s'opéraient en même temps dans les milieux. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu des études au même moment dans la population canadienne en général qui nous permet quand même d'avoir des comparatifs. Mais qui montre malgré tout que toutes choses étant égales par ailleurs, là, on a quand même des proportions qui sont plus élevées dans la communauté juridique, ce qui était déjà le cas avant la pandémie. Avant la pandémie, avec le tour qu'on avait fait au Québec, on avait vu quand même que les professionnels du droit étaient vraiment affectés par des proportions de détresse psychologique plus importantes et que ces proportions-là étaient plus importantes que dans la communauté en général. Maintenant, depuis la pandémie, là, si on prend les résultats simples de l'étude qu'on a fait, mais on a constaté que 59% des professionnels du droit, pensez-y, 59%, c'est...
59, c'est énorme, c'est énorme.
C'est plus d'un professionnel sur deux dans les milieux juridiques qui est de la détresse. Donc, c'est vraiment très important. Puis, il faut savoir également que c'est le même constat quand on regarde l'épuisement professionnel à 56% qui sont à un niveau quand même assez important pour qu'on se dise, mais ça, c'est de l'épuisement professionnel. 29% de symptômes dépressifs qui vont de modérés à sévères. 36% d'anxiété à un stade préoccupant. Et presque un professionnel sur quatre, là, 24% qui ont eu des idées suicidaires au cours de leur pratique professionnelle. C'est vraiment élevé quand on pense, par exemple, à d'autres professions comme les médecins des études canadiennes comparables tendent à situer autour de 19% cette proportion-là. Donc, ça veut dire que c'est quand même très élevé.
Ah ben, j'allais vous demander justement des comparatifs avec d'autres professions, mais OK, donc vous avez un peu répondu ici à ma question. Puis je me demandais aussi en vous écoutant, donc parce que bon, professionnel, par exemple, bon, moi je suis avocate, mais je suis surtout avant tout, je travaille pour une organisation non gouvernementale. J'ai des collègues qui travaillent au gouvernement, j'ai des collègues qui travaillent au privé dans des grosses firmes, des petites firmes. Cette étude, c'était donc large, j'imagine, on parlait de professionnels juridiques au sens large. Est-ce qu'on parlait seulement, parce que je sais que des fois, je l'ai déjà entendu, on va dire, ouais, mais tu sais, les avocats au privé, bon, ils sont pas stressés, tu sais. Mais donc, est-ce que c'était ici seulement eux et elles, ou au contraire, non, là, c'est pas que les avocats du privé, c'est la profession juridique en général.
La profession juridique en général, il faut savoir qu'on a mesuré, on a dressé dans le rapport qu'on vient de publier, on a dressé un portrait général, mais aussi spécifique, c'est-à-dire qu'on est allé voir dans le secteur public versus privé, on a fait des comparaisons statistiques pour voir s'il y avait des différences significatives. Donc, d'abord, si on peut juste regarder le public versus le privé, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Donc, c'est presque le même pourcentage à 1% près de mémoire. Donc, et ce qu'on voit, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que moi-même, après 10 années, je découvre toujours de nouvelles choses et je suis toujours impressionnée de voir que malgré l'hétérogénéité de la pratique du droit, il y a une homogénéité au niveau des facteurs de risque. Donc, des fois, on dit « Ah, c'est les heures facturables. Ah, c'est les demandes émotionnelles. » Mais je vous dirais qu'au final, c'est les mêmes problématiques. Elles émanent tous des mêmes racines, ces problématiques-là. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vous dirais qu'on a pu, justement, là, aller dans plusieurs contextes de pratiques différents, que ce soit selon les champs de pratique, que ce soit les jeunes en début de carrière, que ce soit les professionnels plus expérimentés. Donc, on est allé voir là, vraiment une diversité de contextes pour aller voir là, quel est l'impact le plus important ou parfois moins important de certains facteurs de risque selon les contextes.
C'est également, je pense, la richesse de ce rapport. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je le garde, moi, très précieusement dans ma pochette arrière là, pour la sortir, pour la montrer, pour vraiment un peu allumer aussi certaines collègues là. Puis donc je comprends, il y a toujours des surprises, donc je comprends aussi qu'il y avait une certaine vous aviez une certaine idée des résultats, ça c'est venu confirmer certains résultats. Est-ce que certaines surprises que vous avez eues, vous avez dit ah ça voilà, soit dans le bon sens soit dans le mauvais sens, vous pensez que ça allait être plus, ça a été moins, ou donc vraiment quelque chose peut-être qui vous a surprise dans ce rapport?
Ouais, je dirais ce qui m'a le plus surpris et ce qui de mon point de vue est le plus alarmant, c'est non pas les résultats mais d'autres éléments qui sont concomitants à ces résultats-là, parce qu'évidemment, au niveau des indicateurs, on se doutait bien hein, qu'on aurait des indicateurs qui étaient élevés, c'était déjà le cas avant la pandémie, et la pandémie n'a certainement pas amélioré les choses. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement préoccupant, de mon point de vue, particulièrement alarmant, c'est les barrières liées au fait d'aller chercher de l'aide. Vous savez, il y a une large proportion des professionnels du droit qui nous ont répondu que dans le passé, ils avaient vécu des difficultés, du stress et qu'ils n'avaient pas été en mesure d'aller chercher de l'aide pour toutes sortes de raisons. Parfois parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment bien les services qui sont offerts par le programme d'aide. Parfois parce qu'ils manquent de ressources, que ce soit en temps, que ce soit en termes financiers. D'autres professionnels craignent la confidentialité liée au programme d'aide. Donc, on peur que leurs collègues l'apprennent, que les associés l'apprennent, ont peur que le barreau l'apprenne. Et donc, ils vont hésiter à aller chercher de l'aide. Il y a aussi toute l'image entourant ça. Fait que même quand c'est dans la vie, par rapport à ma vie privée, aux gens qui gravitent autour de ma vie privée, je crains l'image que ça va projeter. Donc, les gens voient ça comme une faiblesse. Et je dirais, ça fait partie des barrières qui sont quand même importantes et qui sur lesquelles on peut travailler. Mais donc ça, c'est préoccupant. Puis j'irais même jusqu'à dire, je me rappelle en particulier d'une statistique là, où il y avait un professionnel, c'est-à-dire on évaluait la proportion de professionnels qui n'avaient pas été en mesure d'aller chercher de l'aide alors qu'ils avaient eu des idées suicidaires. Mais c'est 60%. C'est vraiment important. C'est 60% des professionnels qui ont eu des idées suicidaires en cours de pratique qui ne sont pas allés chercher de l'aide en raison pour toutes sortes de raisons, là, parmi ces barrières-là que je viens de vous évoquer. Fait que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est encore une barrière, mais c'est la stigmatisation. Hein, il y a une stigmatisation dans la communauté juridique, mais dans d'autres communautés aussi, on peut penser à toutes les professions réglementées, des environnements de travail hautement qualifiés, hautement performants. Hein, il y a de la stigmatisation. Il y a encore beaucoup, on doit faire beaucoup de sensibilisation en matière d'aller chercher de l'aide de façon préventive avant de développer des symptômes trop significatifs qui signifient qu'on est en dépression, par exemple. Et on a posé des questions, on a eu un regard très intéressant, je pense, sur la situation. En fait, on a posé aux gens, que pensez-vous des professionnels du droit comme vous qui vivent avec des enjeux liés à la santé mentale dans le cadre de leur pratique? Donc, par exemple, je pense que les gens qui vivent des défis en lien avec leur santé mentale sont faibles ou ne devraient pas pratiquer le droit, ou en tout cas, bref, on a posé plusieurs questions. Et ensuite, on a posé les mêmes questions, mais par rapport à ce que je perçois des gens qui exercent ma profession. Donc, comment pensez-vous que les professionnels dans votre profession perçoivent les gens avec des enjeux de santé mentale? Et savez-vous quel est l'écart entre la perception individuelle et la perception collective? C'est 40%. C'est énorme. C'est 40% d'écart. Et ça, là, ce 40%-là, là, c'est un obstacle significatif pour aller chercher de l'aide. Et on peut le réduire de façon très considérable en parlant de santé mentale, un peu à travers des balados comme vous le faites aujourd'hui, mais aussi en faisant des campagnes de sensibilisation dans les organisations, en ayant des pratiques comme en organisant des dîners thématiques, en mettant la santé en valeur, en la mettant de l'avant, en étant sensible aux enjeux de santé puis aux humains. Je pense qu'on est capable de réduire cette stigmatisation-là.
C'est tellement intéressant. Puis juste pour être certaine, pour être sûr qu'on a tous qu'on s'est bien compris, c'est qu'en fait, j'imagine que quelqu'un, par exemple, sa réponse est moins dans le jugement. Il voit plus que les autres personnes extérieures vont juger les enjeux. Voilà. Donc, mais c'est quand même, comme vous dites, ça, c'est très parlant. Le 40%, c'est énorme comme différence. Puis c'est aussi, je pense, parce que c'est vraiment. Puis comme vous dites, si vous avez parlé des racines. Puis je pense que tout ce qui est associé à la performance, puis la faiblesse qu'on associe à la sensibilité, à ces enjeux-là, je pense qu'il faut en parler pour vraiment déconstruire ça beaucoup aussi, je pense. Donc. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Et là, j'avoue que là, je vois tout ça aussi. Moi, je travaille beaucoup dans ce qui est égalité des genres et tout. Et puis je pense que toutes les questions aussi de sortir de parfois toutes les masculinités qu'on essaie de prouver. Puis bon, voilà. Puis la profession parfois juridique est très encore dans ce conservatisme-là parfois. Donc, c'est quand même très intéressant. Moi, je m'emballe un peu, là, mais c'est que je vois tout ce côté-là aussi que je trouve.
C'est tout à fait intéressant. Puis vous savez, juste sur la question de la diversité dans la pratique du droit, on a tout un segment, là, une bonne partie du rapport qui est consacrée à comprendre les enjeux vécus chez les professionnels selon différents profils, par exemple les membres de la communauté LGBTQ, les personnes issues de minorités culturelles ou ethniques, les gens selon les jeunes, les personnes selon l'âge, donc ça peut être les jeunes, mais ça peut être aussi les professionnels plus expérimentés qui sont parfois victimes d'âgisme. Il va y avoir également les professionnels en situation de handicap. Bref, il y a vraiment une diversité, les femmes, tout ça. Donc, on a vraiment analysé différents profils. Puis, je vous dirais que ce qu'on a retrouvé d'intéressant et qui montre encore quand même une fois la stigmatisation, mais de façon indirecte. Je discutais de ça d'ailleurs récemment avec Steve Bugeaud à l'Association du barreau canadien, mais lorsqu'on s'est rencontrés en Saskatchewan et on discutait de ça, puis je lui disais, vous savez, fait intéressant, on a mesuré la discrimination perçue selon différents profils. C'est un peu une forme de stigmatisation, hein, mais tu sais, appliquée dans le contexte de travail quand on le vit au quotidien. Et dans ce cadre-là, on a posé la question aux gens s'ils se sentaient discriminés, comme il y avait plusieurs questions. Et on a vu que les membres de la communauté LGBTQ étaient vraiment parmi ceux où le sentiment de discrimination était le moins élevé. J'étais quand même surprise de ça. Dans un milieu assez conservateur, la profession juridique est encore assez conservatrice, peut-être moins dans certaines provinces que dans d'autres, mais en tout cas, bref, au final, j'étais surprise. Et je suis allée voir, parce qu'on a aussi posé la question, est-ce que les gens de votre milieu le savent que vous êtes membre de la communauté LGBTQ? Bien, il y en a 40% qui le cachent à leur milieu de travail. Donc voilà, ceci explique cela parce que finalement, on ne posait pas les questions sur la discrimination si les gens du milieu ne le savaient pas pour induire un biais. Et donc, ça montre à quel point, même quand un phénomène n'est pas présent, il est présent de façon indirecte, de façon sous-jacente. Donc, les gens hésitent à aller parler de ces questions de diversité. Puis ça, c'est préoccupant quand même parce que la vie au travail est un milieu d'épanouissement. C'est un milieu où on partage, puis sans rentrer dans le détail de notre vie privée, mais quand on arrive le lundi matin, dire « Ah, je suis avec mon conjoint, ma conjointe, faire du ski », mais là, c'est comme si ça devient complètement étanche, la vie personnelle puis la vie professionnelle dans un contexte comme ça. Et donc, ça limite aussi la proximité du soutien qu'on peut obtenir des collègues dans certains contextes où on vit.
J'ai l'impression que vous pourriez nous sortir des statistiques, des informations pendant comme des heures et des heures. Encore, je le réitère, j'aime beaucoup comment le rapport a été fait, puis je pense que tout le monde qui nous écoute peut trouver aussi des certains passages ou certaines réalités qui les concernent plus, qui les touchent plus, puis tout le monde est concerné, en fait, puis je pense que c'est ce que montre ce rapport-là aussi, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Puis, il faut vraiment qu'on sorte, qu'on déstigmatise la chose. Puis, j'aimerais un peu, est-ce que, bon, il y a plusieurs témoignages. J'ai aussi aimé comment c'est fait, ça, des témoignages que vous avez pris, vous avez marqué parfois, vous les avez mis mot pour mot parfois. Est-ce que vous, de votre côté, bon, là, vous avez raconté quelques anecdotes, mais j'ai comme le goût de vous en demander d'autres. Une qui vous a personnellement marqué, peut-être, lorsque vous avez fait cette étude?
Je dirais que oui. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Vous savez, à la fin de l'enquête, on avait une boîte de sondage, de commentaires, excusez-moi. Et dans cette boîte de commentaires, on avait alloué un certain nombre de mots. Puis je me disais, bon, c'est clair, j'avais pas tellement d'attente, que je me suis dit, les professionnels, c'était quand même, ça prenait parfois une heure pour certains profils de répondre à l'enquête. Donc, je me disais, rendu là, peut-être ça ne le tentera pas là, d'écrire des commentaires. Mais vous savez quoi? On a reçu 300 pages de commentaires des professionnels. C'était incroyable. Et on les a tous lus. On les a tous lus, on les a tous analysés. Et on a choisi d'inclure une partie de ces commentaires-là, évidemment en les anonymisant, en les décontextualisant parfois pour éviter justement que le professionnel soit identifié. Mais simplement pour donner une voix aux professionnels, en mettant des segments selon les différentes thématiques du rapport, donc ça s'appelle la voix des professionnels du droit. Donc vous avez là des segments dans chacune des sections du rapport. Puis parmi ces on a reçu aussi plusieurs courriels. On a créé une boîte qui s'appelle Wellness and Law, hein, que les professionnels peuvent nous écrire également directement à l'Université de Sherbrooke, ça devrait directement à moi dans ce cadre-là. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages. Et parmi ceux-ci, ceux d'une jeune femme qui était enceinte, ou en tout cas avait été enceinte dans un cabinet privé, et avait fait le choix de cacher la situation à ses collègues pour être en mesure de continuer à avoir des dossiers intéressants, atteindre ses objectifs et tout ça, et allant même jusqu'à consommer de l'alcool pendant des 4 à 7 devant ses collègues pour éviter que ses collègues fassent le lien et se rendent compte qu'elle est enceinte finalement. Et j'ai trouvé ça immensément triste. Et notre, en fait, je ne suis pas du tout dans le jugement. Hein? Ça m'a touchée particulièrement comme femme. Moi, je suis professionnelle. J'ai moi-même 50 ans. Et donc, je me suis dit, ça montre comment il y a encore beaucoup de travail à faire dans le milieu de travail pour... T'sais, on parle de conciliation travail-famille. On a plein d'organisations qui ont des belles politiques de conciliation travail-famille, mais qui, malheureusement, ont des pratiques parfois contradictoires qui ne permettent pas d'actualiser ce droit à la conciliation travail-famille. J'ai même déjà entendu dans le passé des professionnels, des jeunes professionnels, se faire dire, ben, si tu veux avoir des enfants, viens pas travailler ici, là, parce qu'il y en a personne qui a eu un congé de maternité qui soit présent. Donc, c'est malheureux, mais ça existe encore aujourd'hui, malgré que ce soit proscrit, hein. Selon la Charte des droits et libertés, mais je vous dirais que c'est encore présent. Puis un autre professionnel, un homme cette fois, qui a dit, vous savez, au fil des ans, après avoir raconté son témoignage, puis les difficultés vécues, vous savez, au fil des ans, cette profession-là m'a tué à plusieurs reprises et de bien des manières. Et je trouvais ça quand même lourd de sens et... ça montre comment, des fois, les professionnels se sentent un peu pris au piège, ils vivent des difficultés, mais en même temps, ça a un coût social important de quitter sa profession, hein, quand on est malheureux. C'est difficile de recevoir ça parce que là, tu te dis, ben, ces gens-là, c'est qu'après plusieurs années d'études, plusieurs années investies dans leur carrière, vivent ces difficultés-là, et Et là, quitter la profession, c'est avec de graves conséquences. Mais vous savez, un autre élément qui est préoccupant, au-delà des indicateurs de santé, c'est l'engagement des jeunes professionnels, l'engagement dans la profession. Hein. On a mesuré, on a demandé aux gens, si vous aviez la chance de quitter la profession pour un emploi plus rémunérateur ou au même niveau de rémunération, est-ce que vous le feriez? Vous savez, on a 54 % je crois, des professionnels qui ont répondu. Donc, c'est plus qu'un professionnel sur deux qui quitterait la profession aussi, qui pouvait le faire. Puis on a quand même 7300 répondants, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même parlant. Puis si on veut protéger l'engagement des professionnels dans le futur, ben c'est clair pour moi qu'on doit soutenir de manière durable la santé des professionnels. Ça passe nécessairement par là. Sinon, on aura du mal à recruter dans le futur. Puis ça, je pense que c'est un message à recevoir. Puis j'ai vu aussi dans les dernières semaines, déjà, le message a été reçu par bien des grands cabinets avec qui j'ai échangé, mais j'ai entendu des réorientations dans ce cadre-là parce qu'on a du mal à recruter. Là. Les jeunes professionnels qui arrivent, là, ils ne souhaitent plus travailler dans des contextes, ils ne s'identifient plus dans des modèles où ils doivent travailler 60, 70 heures par semaine. C'est pas ce qu'ils veulent.
Non, c'est vrai, c'est avec tout le, tu sais, tout aussi je l'ai juste en anglais, mais self-care, ça, qu'on parle beaucoup plus maintenant, j'ai l'impression que, puis là, vous le confirmez avec ce chiffre-là, les gens n'ont peut-être plus cet intérêt-là à donner tout ce qu'on a à la profession, à la carrière, au risque de notre propre santé psychologique, là, donc...
Et c'est tant mieux,
Mais c'est tellement tant mieux,
C'est tellement tant mieux parce que la vie c'est un tout. Hein,
mais c'est ça.
La carrière, c'est important, mais ce n'est qu'un pilier dans l'épanouissement d'une personne. Et quand je compare ça des fois aux fondations d'une maison, vous avez différents piliers. Vous avez vous en tant qu'individu, ce que vous êtes, comment vous prenez soin de vous. Vous avez votre famille, hein, le noyau familial rapproché, ça peut être un conjoint, une conjointe, les enfants, tout ça. On a la carrière, puis on a les amis, puis des fois notre implication sociale. Et tout ça forme un tout. Puis quand on décide de surinvestir dans une de ces sphères-là, au détriment de d'autres sphères, tant que ça va bien, c'est pas si mal. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais j'aime travailler, hein, j'aime mon travail. » Et donc, justifie cet investissement-là en disant ça. Mais c'est correct d'aimer son travail, mais ça ne veut pas dire non plus de négliger d'autres sphères de vie. Puis malheureusement, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est que moi, je leur dis « Ben, c'est super, vous allez avoir un super gros pilier dans lequel vous allez avoir investi beaucoup, mais je vous souhaite de jamais rencontrer un grand vent. » Parce que si vous vivez des difficultés dans votre vie professionnelle, ça devient votre unique pilier. Donc, tout le reste auquel on a fait le vide autour fait en sorte qu'on a du mal à aller chercher du soutien, de proximité, que ce soit dans la famille, parce qu'on a fait des choix de pas avoir d'enfants. Des fois, on n'a pas beaucoup de vie sociale en dehors du travail. Fait quand on vit des difficultés, puis on en vit pas des difficultés, là, on va pas se dire que ce soit un client difficile, que ce soit un associé qui quitte notre bureau, que ce soit un conflit. Et donc, là, on va avoir du mal à aller chercher du soutien. Ça, c'est préoccupant. Fait que tant mieux si les professionnels sont de plus en plus sensibles.
Tant mieux aussi des rapports comme ça qui sortent. Et ça, je ne peux que le répéter. Puis, je suis très contente aussi de savoir qu'il y a une deuxième phase, puis que les recommandations s'en viennent. Juste une dernière question, puis j'ai l'impression que ça va être oui la réponse, mais êtes-vous optimiste quant aux changements qui peuvent être faits et qui peuvent être apportés pour améliorer donc la santé psychologique de notre profession? Puis j'ai l'impression que tout votre message est plus dans l'optimisme malgré tout, mais j'aimerais quand même vous entendre quelques mots sur ça.
Oui, je suis très optimiste parce que l'étude qu'on vient de faire est quand même une étude assez exhaustive, je voudrais dire, là, où on a analysé selon différentes perspectives les enjeux de santé. Mais ça nous a permis quand même d'élaborer des recommandations qui touchent tous les acteurs à tous les niveaux de la communauté juridique. Que ce soit dans les organisations, mais que ce soit aussi au niveau des barreaux, que ce soit au niveau des associations professionnelles, au niveau des programmes d'aide également. Puis, beaucoup d'actions qui sont faisables dans le quotidien. Ça nous a permis de développer des recommandations qui soient porteuses. Puis je pense que le message à retenir à la lueur de ces recommandations-là, en fait, les recommandations, il y en a une dizaine de recommandations. Chacune de ces recommandations-là inclut des recommandations plus spécifiques, sur une cinquantaine de recommandations quand même. Et on les a ancrées, on les a rendues très, j'oserais dire, smart hein, en termes d'objectifs. Donc, on a clarifié les objectifs, puis identifier des actions précises, mesurables pour les professionnels. Je pense que le premier pas vers une amélioration, c'est la mesure. Ce premier pas-là est franchi pour la communauté. Et maintenant, on a identifié des actions très claires, comme développer certains contenus de formation, comme revoir l'organisation du travail. Je pense par exemple aux heures facturables. Donc, on a fait des suggestions dans ce sens-là. Puis, du moins, pour minimiser certains profils qui sont particulièrement à risque, je pense chez les jeunes professionnels, chez les professionnels très exposés à des demandes émotionnelles intenses, qui peuvent en vivre même des traumatismes au fil du temps. Donc, je crois qu'on ne peut qu'être optimiste à ce stade-ci. Et je pense que malgré tout, je demeure toujours une éternelle optimiste, sinon je ne ferais plus de recherche.
Ouais, c'est ça. Sinon, ça, j'aime ça entendre ça. Puis c'est un peu ça qu'on a aussi quand on fait nos podcasts. On parle avec des gens qui touchent à des sujets très difficiles parfois. Puis tout le monde, finalement, on parle du cynisme et tout, mais il faut rester optimiste. Puis je pense que c'est avec des gens comme vous qui travaillent sur ces sujets-là que moi, je suis très optimiste aussi de voir ça. Puis je suis vraiment merci encore. Vraiment très, très. Puis je parle pour moi et mes collègues à qui j'en ai parlé aussi de ce rapport-là. Vraiment, on vous remercie pour tout le travail qui a été mis derrière ça. Puis pour avoir à cœur la santé de la profession juridique. Et vous maintenant, Fabien, est-ce que vous êtes optimiste que la profession juridique va vraiment lire, comprendre et qu'elle va bien réagir face aux conclusions et aux recommandations qui sont faites dans ce rapport? Ou est-ce que en fait, elle va plutôt avoir une réaction du style « Ben oui, voilà, c'est comme ça, on le savait déjà, mais on va continuer quand même parce que, bon, de toute façon, ça fonctionne bien. »
Je pense qu'une façon de le voir, c'est ça, effectivement. Puis on peut se dire, bon, on va continuer jusqu'à ce que ça ne marche plus. Mais ce qui arrive quand ça ne marche plus, c'est donc c'est une profession qui est basée sur les gens. Hein? Le service juridique, c'est pas un service qui est... Bon, c'est un service qui est rendu en partie par une machine parfois, mais il faut quelqu'un derrière pour opérer la machine. Et si la personne qui opère la machine est elle-même brisée, bien, le service ne sera pas rendu de façon acceptable. Ce qu'on voit avec ce rapport-là, c'est qu'il y a une proportion des gens, effectivement, qui sont brisés. Donc, je crois que ce qui nous guette, finalement, si on ne prend pas action, ce qui nous guette, ben, c'est ça, c'est qu'on n'aura plus accès à des gens qui seront prêts à faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui dirige les gens directement vers leur ruine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ce n'est pas un endroit où je souhaite être. Puis, je suis prêt à parier que si on a déjà une bonne proportion des jeunes aujourd'hui qui nous disent qu'ils sont en difficulté, je pense que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, ben, on aura des problèmes sérieux de recrutement. Le bassin, finalement, de candidats potentiels n'est peut-être plus ce qu'il était. Puis, je pense que c'est ce vers quoi on se dirige si on ne prend pas action. Ben, essentiellement, c'est une profession qui n'est pas en mesure de rendre le service qu'elle doit rendre. Et puis, ça pose bien sûr des problèmes beaucoup plus sérieux si on se retrouve là. Et même si on est un groupe, une profession relativement conservatrice, comme je disais plus tôt, j'ai espoir qu'on est en mesure de faire ce qu'il faut pour ne pas se retrouver là. Je pense que ça fait partie du travail que l'Association du barreau canadien est en mesure de faire avec les cabinets grands et petits. C'est donc porter finalement à l'attention des gestionnaires les résultats de l'étude en question, que ce soit avec les managing partners, avec les gens de ressources humaines des grands cabinets, pour s'assurer qu'il y a une connaissance finalement de ces résultats-là. Est-ce que je suis optimiste? Oui, absolument. Mais comme je disais, ça ne va pas arriver tout seul. On ne peut pas s'attendre à ce que spontanément, comment la profession change du jour au lendemain. Je crois qu'il faut graduellement, donc comme je disais, porter l'étude à l'attention des gens, puis souligner la nature du problème. Finalement, faire voir que l'avenir du recrutement pour les grands cabinets comme pour les petits est potentiellement en jeu. Puis ça devient un problème d'affaires à ce moment-là, un problème de chiffres. S'il n'y a plus de personnel qui est prêt à s'investir auprès des cabinets en question, le client, il va faire quoi? Le client, il va aller où? Donc, je pense qu'il y a un avantage concurrentiel, finalement, pour les cabinets qui sont prêts à faire ce qu'il faut, qui sont prêts à s'investir dans le changement. Il y a un avantage concurrentiel pour eux parce qu'effectivement, non seulement ils vont attirer un certain talent, ils vont pouvoir retenir ce talent-là plutôt que ceux qui vont choisir d'attendre et de voir ce qui se passe. Puis, c'est pas une question de... Ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas une question de on va faire une belle brochure de recrutement. On va diminuer la cible des offres facturables, on va faire une belle brochure de recrutement, puis on va s'arrêter là. Non, il faut qu'il y ait un sentiment pour que ça soit sincère, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un sentiment que l'employeur en question s'investit dans le bien-être de son personnel. Et la réalité est que les gens dans la profession se parlent. Et puis, on va savoir qui sont ceux qui s'investissent réellement et qui font réellement les efforts plutôt que ceux qui ne le font pas. Puis, je pense que, donc, comme je disais, c'est effectivement un avantage concurrentiel pour ceux qui choisissent de s'investir.
Merci beaucoup, Fabien Fourmanois, du sous-comité bien-être de l'ABC. Merci beaucoup, Dr. Cadieux, vraiment pour votre temps. Et on va rester définitivement à l'affût des recommandations, qui, je comprends en plus, sont des recommandations un peu clés en main. Donc, ça, c'est toujours mieux quand on peut vraiment savoir. On n'a pas besoin de se creuser la tête comment les mettre en œuvre, là. Donc, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, ça me fait plaisir. Puis, merci beaucoup à vous de me donner une occasion encore de discuter de santé pour justement abattre ces frontières de la stigmatisation puis sensibiliser à l'importance d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Parce que ça, je pense que c'est un message qu'il faut retenir, puis chaque action compte, ça aussi, il faut le retenir. C'est pas de mettre la hanche dans la structure au grand complet, mais de plutôt entreprendre, je crois beaucoup aux petits pas, et quand chacun fait un petit pas, ben au final, on finit par faire de grandes choses. Donc, je vous remercie encore.
Et voici finalement les 10 recommandations qui, ne vous en faites pas, feront certainement les sujets d'épisodes futurs de Juristes branchés. Donc, pour nous diriger vers une pratique saine et durable du droit au Canada, il faut d'abord 1. Améliorer la préparation des futurs professionnels et leur fournir un soutien pour faire face aux enjeux de santé psychologique. 2. Améliorer le soutien et l'encadrement disponibles à l'entrée dans la profession. 3. Améliorer la formation professionnelle continue, la FPC. 4. Le cas échéant, évaluer la mise en œuvre de modèles alternatifs d'organisation du travail qui limitent l'impact de certains facteurs de risque sur la santé. 5. Mettre en place des actions visant à déstigmatiser les enjeux de santé mentale dans la profession. 6. Améliorer l'accès aux ressources en matière de santé et de mieux-être et éliminer les obstacles qui limitent l'accès à ces ressources. 7. Promouvoir la diversité dans la profession et réviser les pratiques, les politiques et les procédures qui peuvent comporter ou créer des biais discriminatoires. 8. Considérer la santé des professionnels comme une partie intégrante de la pratique du droit et du système de justice. 9. Développer une culture de la mesure, je l'aime beaucoup celle-ci. Et 10. Favoriser un meilleur équilibre travail-vie personnelle dans la profession juridique. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et merci, vraiment un grand merci à vous, Fabien Fourmanois, du sous-comité ABC Bien-être, ainsi que Dr. Nathalie Cadieux de l'Université de Sherbrooke. N'hésitez pas à nous écrire à podcast@cba.org et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juristes branchés.